messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, le Pentagone vient de publier son nouveau document de stratégie de défense nationale, une feuille de route qui met clairement l'Europe en cinquième roue du carrosse américain. En France, la défense des enfants a bon dos. L'Assemblée nationale a très largement voté la restriction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Une véritable porte ouverte au muselage des opinions dissidentes. Et puis pour terminer, nous reviendrons sur l'infatigable feuilleton budgétaire. Domestiquer les Européens, voilà l'objectif désormais affiché par les États-Unis. Deux mois après la publication de la stratégie de sécurité nationale, le Pentagone a rendu sa propre copie, un véritable brûlot anti-européen. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie.
Les administrations américaines se succèdent, mais une constante reste toujours. La volonté de subjuguer et d'exploiter l'Europe. Seule différence notable avec Donald Trump, désormais cela ne se fait plus au nom de valeurs universelles mensongères, mais ce sont clairement les intérêts vitaux des États-Unis d'Amérique qui sont mis en jeu. Il y a deux mois, en novembre 2025, les États-Unis rendaient public sur le site de la Maison-Blanche un document d'une trentaine de pages intitulé « Stratégie de sécurité nationale ». La partie réservée à l'Europe était assez cinglante. Décrivant une Europe à la dérive et évoquant des États européens qui deviendraient d'ici quelques décennies majoritairement non-européens. Assurément, cette évocation avait fait frémir une bonne partie des chancelleries d'Europe, ainsi que les médias libéraux mainstream. Comme le rappelle le criminologue Alan Bauer, les Européens, et on pourrait ajouter en particulier leurs médias dominants qui cherchent à hystériser plutôt qu'à expliquer les phénomènes en cours, ne comprennent pas Trump. Ou bien encore les Russes, car ils les jugent d'un point de vue moral, plutôt que de chercher à les analyser rationnellement.
Chez Donald Trump, il y a une logique, une cohérence et une rationalité qui dépassent largement ses provocations, ses digressions, qui ne sont pas toujours des divagations. Le problème que nous avons avec Donald Trump, c'est que nous sommes purement réactifs et assez peu analytiques.
Et pourtant, ceux qui ont encore le souhait de comprendre réellement le monde auraient tout intérêt à prendre la peine d'étudier les communications officielles de cette nature émises par les Américains. Puisque juste après le kidnapping de Nicolas Maduro au Venezuela, le président américain Donald Trump faisait une référence directe à la nouvelle doctrine de sécurité nationale émise en novembre 2025.
C'est la doctrine Monroe. On l'a plus ou moins oubliée. C'était très important, mais on l'a oubliée. On ne l'oublie plus. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination des États-Unis dans l'hémisphère ouest ne sera plus jamais remise en question.
And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player.
J'espère que maintenant les gens ont compris que le 47e président des États-Unis n'est pas un joueur. Quand il vous dit qu'il va régler un problème, il le pense, il agit en ce sens. C'est un président d'action. Je ne comprends pas comment certains ne s'en sont pas encore rendus compte. Et si jusqu'à présent vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Ce n'est pas juste un président qui parle et envoie des lettres et tient des conférences de presse. S'il dit qu'il est sérieux à propos d'un sujet, il le pense. Et le message ici pour le monde est que le président ne cherche pas des conflits. Il cherche plutôt à bien s'entendre avec tout le monde. Et ne faites pas le malin avec ce président aux affaires, car cela ne va pas bien se passer. Je suppose que cette leçon a été retenue la nuit dernière.
Et le nouveau document produit par le Pentagone, intitulé « Stratégie de défense nationale », lui aussi d'une trentaine de pages, complète en quelque sorte la doctrine de sécurité nationale produite deux mois plus tôt. Et une lecture attentive et comparative des documents permet de constater que la perception américaine de l'Europe est encore plus raide que celle produite il y a deux mois. En effet, en novembre 2025, les documents américains semblaient avoir un regard quelque peu désolé et paternaliste sur l'Europe, tout en déplorant par exemple que l'Allemagne transfère une partie de ses usines en Chine en raison du coût de l'énergie. En clair, la crainte des Américains est que l'Europe, en voie d'affaissement, se fasse racheter par les Chinois et non pas intégralement ponctionnée par les États-Unis. C'est ainsi qu'il fallait comprendre la formulation selon laquelle les États-Unis estiment que l'Europe doit se prémunir des pratiques économiques hostiles venues de l'extérieur, de toutes, sauf de celle des États-Unis. Mais tout au moins, la doctrine américaine reconnaissait-elle que les États-Unis auraient à s'affairer à aider l'Europe à reconstruire ses liens avec la Russie, admettant qu'elle a besoin de l'énergie russe pour fonctionner de façon viable. Deux mois plus tard, la doctrine de défense militaire du Pentagone va encore plus droit au but et oublie les quelques paternalismes préalablement énoncés. Selon le département de la défense américain, c'est aux Européens d'assurer l'essentiel de leur défense face à ce qui est mentionné comme la menace russe, et le rôle du Pentagone sera de s'assurer que les Européens coopèrent avec les Américains dans le domaine de l'industrie de la défense. En clair, que les Européens achètent un maximum d'armes américaines pour que les États-Unis fassent rentrer l'argent dont ils ont cruellement besoin. En effet, à mesure que la puissance asiatique va s'affirmer au cours du XXIe siècle, cela va inévitablement entraîner une diminution de l'influence du dollar américain comme monnaie d'échange, un privilège qualifié autrefois d'exorbitant et qui assurait et assure encore aux États-Unis une capacité d'endettement gigantesque avec une inflation des plus limitées. Par conséquent, les États-Unis vont avoir besoin de se réindustrialiser et de produire à nouveau pour asseoir leur monnaie nationale sur quelque chose de tangible. Et pour assurer cette transition difficile, ils comptent d'abord et avant tout sur la domination effective qu'ils exercent sur l'Europe pour pouvoir la piller. Et pendant que les industries européennes disparaissent et que les États européens mettent leur population en esclavage pour dette, tout le monde regarde vers un caillou glacé appelé Groenland. Et même si parfois il arrive du côté de Washington de comprendre les conséquences de leur pillage, les intérêts nationaux américains restent l'unique objectif qu'ils émettent, au moins désormais avec une honnêteté qui en désarme et surprend beaucoup. Côté européen, on fait semblant de vouloir réagir à cette hostilité quasi assumée des États-Unis. Et Ursula von der Leyen a même évoqué une future doctrine stratégique pour l'Europe. Une chose ne change jamais. À chaque crise réelle ou surjouée, Bruxelles veut toujours un peu plus de pouvoir. D'autant que jusqu'à présent, tout en faisant mine de se montrer outré du comportement de Donald Trump, les euromondialistes ont systématiquement continué de servir les intérêts américains. Et rien ne laisse présager qu'il en soit mieux ou autrement demain. Mais comme le dit si bien l'adage, malheur aux vaincus, vae victis.
La boîte de Pandore est ouverte. L'Assemblée nationale a largement soutenu la mesure macroniste de restriction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une mesure qui permettra avant tout de contrôler l'identité de tous les utilisateurs. Olivier Frère-Jacques.
Le texte qui nous réunit ce soir ne concerne pas simplement des outils, les réseaux sociaux. En réalité, je crois qu'il nous interroge sur le modèle de société que nous voulons et que nous défendons. Est-ce qu'on veut une société de la violence, de la brutalité, du rapport de force permanent, du cyberharcèlement, une société qui dégrade la santé mentale de nos jeunes? Ou est-ce qu'on veut au contraire une société de fraternité, d'humanisme, où on accepte les différences et où on fait en permanence tout ce que nous pouvons pour protéger nos jeunes de toutes les influences et de toutes les instrumentalisations?
Protéger nos jeunes, c'est le mantra macroniste répété par le président et son premier ministre, qui ni l'un ni l'autre n'ont d'enfants, mais qui ont poussé au maximum pour que soit votée une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. C'est finalement via une proposition de loi du groupe Renaissance portée par Laure Miller que le texte est passé, largement adopté dans la nuit de lundi à mardi avec 130 voix pour et 21 contre. Il vise officiellement à protéger la santé mentale des adolescents face au risque de cyberharcèlement, d'exposition à des contenus violents et de dépendance aux algorithmes capteurs d'attention. Les plateformes concernées, telles que TikTok, Instagram et Snapchat, devront vérifier l'âge des utilisateurs via un tiers de confiance, potentiellement par reconnaissance faciale ou document d'identité, avec une mise en œuvre prévue dès septembre 2026 pour les nouveaux comptes et janvier 2027 pour tous. Les sanctions pour non-conformité pourraient atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial des entreprises. Cependant, cette loi suscite de vives critiques pour son caractère paternaliste et simpliste. Les opposants, principalement de la France insoumise, dénoncent une ingérence dans le rôle éducatif des parents qui devraient pouvoir juger eux-mêmes de l'usage numérique de leurs enfants. Une critique portée notamment par le député Louis Boyard qui dénonce un texte dangereux pour les libertés et voté à la hâte.
On ne sait même pas si c'est les plateformes qui vont l'appliquer ou si c'est la Commission européenne qui ne va l'appliquer. On ne sait même pas quelle est la vérification d'âge qui va être utilisée. Est-ce que si on vérifie les identités de tout le monde, ce vers quoi semble s'orienter le gouvernement, ou est-ce que c'est de la vérification au cas par cas qui ne fonctionne pas en Australie ?
Les questions ouvertes par le texte de loi voté sont nombreuses. Qui sera le tiers de confiance qui assurera l'intérim avec la plateforme ? Dans quelle mesure l'identification des personnes pourra-t-elle être utilisée à des fins procédurales avec une batterie d'exceptions envisageables ? Suspicion de terrorisme, incitation à la haine, autant de domaines où la subjectivité des inquisiteurs pourrait emporter les libertés des usagers. L'affaire révèle aussi une docilité totale à droite sur le sujet, avec un vote en faveur du texte des LR, du RN et de l'UDR. Une démarche pas franchement habile, tant les réseaux sociaux et Internet ont contribué à l'avènement d'un discours favorable aux opinions dissidentes à droite. Et pourtant, il y a quelques années encore, le RN se plaçait en champion des libertés numériques. C'était en 2020 avec la loi Avia.
Aujourd'hui, la liberté d'expression est morte. L'Assemblée nationale vient d'entériner la loi Laetitia Avia qui viserait soi-disant à lutter contre les contenus manifestement haineux sur Internet. Mais la censure est toujours pavée de bonnes intentions, car derrière cette loi, défendue par le camp autoproclamé du bien, le camp de la vérité, se dissimule un recul gravissime de la liberté d'expression en France. Les réseaux sociaux ont montré leur grande utilité ces derniers mois pour que nos compatriotes voient la réalité des émeutes ayant éclaté un peu partout durant le confinement dans le pays, dans une véritable omerta médiatique, ou encore pour moquer, vidéo à l'appui, les contradictions et les mensonges des membres du gouvernement dans la gestion de l'épidémie.
Un recul des libertés expliqué ici au nom de la protection des plus jeunes, une bonne intention qui risque de contaminer l'ensemble des réseaux. Les technologies pour empêcher l'identification publique des adultes qui se connectent n'est pas assurée, même avec la fameuse technologie Zero Knowledge Proof. Comment croire que l'anonymat pourra être respecté alors même que les administrations de l'État sont incapables de protéger les données des Français régulièrement hackées ? Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle en 2027 et président de Debout la France, n'a de son côté pas molli sur le sujet.
Cela paraît du bon sens comme ça, mais en vérité, c'est un moyen non pas de protéger la jeunesse, il ne la protège pas. Il n'a rien fait sur les jeux vidéo très violents, il n'a rien fait contre le trafic de drogue, il n'a rien fait contre l'horrible prostitution liée à le placement des jeunes en foyer. Donc, ce n'est pas la protection des jeunes qui l'intéresse. C'est l'utilisation de la protection des jeunes, politiquement et médiatiquement, pour censurer les réseaux sociaux à la veille de la présidentielle.
Une prise de position singulière à droite, partagée par quelques personnalités, dont Florian Philippot et Sarah Knafo, reste une hypothèse à ne pas négliger pour l'application du texte, l'incurie des pouvoirs publics français qui ne parviendront probablement pas à faire appliquer la loi si elle poursuit son chemin législatif, chemin durant lequel les sénateurs pourraient aussi supprimer plusieurs dispositions.
Une copie bancale et des motions de censure inefficaces. L'épreuve budgétaire de Sébastien Lecornu se poursuit inexorablement et aucune censure ne semble en mesure de mettre fin à l'opération. Le point tout de suite.
La valse des censures inabouties se poursuit. Ce mardi, quelques jours après l'échec de deux motions de censure consécutives à l'utilisation de l'article 49.3 pour le volet recettes du budget 2026, la mascarade reprend pour la partie « dépenses ». En effet, la France Insoumise et le Rassemblement National ont chacun déposé une nouvelle motion contre le gouvernement Lecornu, tout en sachant qu'elle ne passerait pas. Une pièce de théâtre qui joue comme un disque rayé depuis des semaines. En effet, chaque force politique semble vouloir préserver son image vis-à-vis des électeurs putatifs sans pour autant faire avancer le dossier. Pourtant, Sébastien Lecornu annonçait la semaine dernière la fin de la récréation.
Mais là, pour l'instant, on est quand même dans un moment dans lequel je crois qu'il faut être sérieux. J'ai de bonne foi permis à tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale de travailler avec nous. Et on va continuer de s'exprimer. On a même pris des idées qui n'étaient pas les nôtres pour bien montrer justement que nous étions dans une logique de compromis sincère et réelle. Et même le 49-3, que je fais à regret, hein, parce que pour moi, c'est le Parlement qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout de sa responsabilité. Je suis moi-même parlementaire et je crois au Parlement. C'est comme ça. Enfin, entre un entêtement du Premier ministre et pas avoir de budget pour le pays, le choix, malheureusement, a été fait. Mais maintenant, il faut avancer. Il y a une crise qui a démarré au mois de septembre. Je crois désormais qu'il faut savoir terminer une crise politique. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris ma responsabilité et que je vais continuer de la prendre.
mais pas sûr que la fin d'une crise politique se décrète, à plus forte raison que le budget issu des discussions ressemble à Frankenstein. D'un côté, du serrage de boulons de droite, de l'autre, des exigences clientélistes de gauche. À la fin, aucune cohérence et beaucoup de coups de com'. Le projet prévoit ainsi la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2028, mais aussi des suppressions de postes dans l'enseignement, enseignement qui va pourtant fort bien, comme chacun le sait. L'abattement fiscal des retraités a été plafonné à 3 000 euros contre 4 399 auparavant pour faire plaisir à Nicolas qui paie, même s'il paiera lui aussi encore plus. On annonce que le prix de l'électricité, gonflé par le marché européen, va baisser légèrement au 1er février pour mieux augmenter sur l'année 2026, à l'instar des assurances habitation. De même, l'une des rares mesures efficaces de Mon Compte Formation, celle permettant de passer le permis de conduire, va être supprimée. Les crédits alloués pour l'innovation des entreprises annoncés en grande pompe dans le programme France 2030 sont quant à eux réduits d'1,1 milliard. Les macronistes ont réussi toutefois à faire consensus sur la nécessaire augmentation des budgets de la défense, comme le plaidait Catherine Vautrin, ministre des Armées.
C'est absolument majeur, puisque le budget 25, c'est 50 milliards d'euros, et que le budget 26, ça doit être 57 milliards.
Oui.
Donc c'est indispensable pour les armées, pour qu'elles soient entraînées, pour qu'on achète des munitions, qu'il y ait un budget.
C'est-à-dire que sans budget, on n'est pas prêt à faire la guerre demain ?
Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes moyens pour acquérir, par exemple, des munitions.
On est en difficulté ?
On est moins préparé si on ne peut pas acquérir ces munitions, parce que pour être entraîné, il faut pouvoir tirer. Pour pouvoir tirer, pardonnez-moi, c'est assez basique, il faut des munitions.
Des moyens pour l'armée que l'on serait tenté d'applaudir. Dommage que cette augmentation se fasse à la fin du mandat d'un président dont le principal objectif semble désormais de nous conduire à la guerre. Et partons à présent en compagnie de Renaud Bourleuf pour l'actualité en bref en France.
Limogé pour avoir respecté les agriculteurs. À Mont-de-Marsan, la directrice départementale de la police nationale, Agnès Mazin-Bautier, a été démise de ses fonctions, une information confirmée lundi par le préfet des Landes, Gilles Clavreul. Le motif serait sa gestion d'une manifestation d'agriculteurs non déclarée en janvier. Elle n'aurait pas suivi la demande préfectorale de disperser la manifestation. Notons que le rassemblement paysan s'est terminé sans dégradation, ni violence, ni intrusion. Le syndicat des commissaires de la police nationale a affirmé son soutien pour Agnès Mazin-Bautier, ajoutant que les agriculteurs sont des interlocuteurs avec qui les forces de police peuvent facilement dialoguer. Le syndicat dénonce cette mise à l'écart par le préfet. Son départ a été salué par ses collègues. Gilles Clavreul a été directeur de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT sous la présidence de François Hollande. CNews dans la tourmente, quelques jours après la condamnation définitive d'un des animateurs phares de la chaîne Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs, une nouvelle affaire secoue la chaîne de Vincent Bolloré. Thomas Baudet, le directeur de l'information, a été condamné le mois dernier pour violence sur enfants, en l'espèce les siens, commis entre 2017 et 2023. L'intéressé a toutefois fait appel de cette décision, pendant que Jean-Marc Morandini a annoncé pour sa part porter son dossier au niveau européen pour tenter de faire casser sa condamnation. Deux affaires qui font tache sur la chaîne et qui ouvrent une critique facile à la concurrence. Il ne reste pas moins que le malaise est palpable au-delà de l'antenne. Car si la journaliste Sonia Mabrouk a fait savoir lors d'une interview que son travail sur la même chaîne que Jean-Marc Morandini l'empêchait de dormir la nuit, le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella, aurait tout simplement intimé l'ordre à ses ouailles de ne plus répondre favorablement aux invitations de l'animateur. Les morts solitaires, symptômes de notre temps. L'association Les Petits Frères des Pauvres alerte sur un triste phénomène et lance son observatoire sur ces personnes âgées décédées en silence et retrouvées parfois longtemps après leur mort. En 2025, ce sont au moins 32 personnes qui ont été découvertes plusieurs semaines après leur décès sans que personne ne se soit inquiété. Des chiffres largement sous-estimés basés sur les coupures de presse qui relatent les faits les plus sensationnels, comme cette vieille dame de Bordeaux dont le squelette a été retrouvé dans son jardin plusieurs années après sa mort. Les conséquences d'un isolement social poussé à l'extrême dans une société où la solidarité est toujours évoquée quand il s'agit d'aider le bout du monde, mais pas le petit vieux du même palier. Quand la négligence des géants agroalimentaires tue, dans plusieurs pays, les marques Nestlé, Lactalis et Danone, puis Vita Germine, ont dû rappeler des lots de lait infantile. En cause, la présence possible de céréulide, une toxine dangereuse. Une contamination pourrait alors entraîner des symptômes gastro-intestinaux dans les 24 heures. Les bébés les plus jeunes sont en toute logique les plus fragiles face à l'intoxication. La décision de ces grands groupes n'intervient pas par hasard. Deux décès de nourrissons ont été signalés alors qu'ils avaient consommé du lait infantile. Pour l'heure, aucun lien de causalité n'a toutefois pu être prouvé. Il s'agit tout de même d'une nouvelle faille de sécurité dans ce secteur qui devrait pourtant faire l'objet du maximum de précautions.
Et nous poursuivons avec le reste de l'actualité internationale.
Cocorico Capgemini marche sur la glace. Le groupe français Capgemini, leader des services numériques avec 350 000 employés dans le monde, collabore depuis plus de 15 ans avec le département américain de la sécurité intérieure, incluant l'ICE, la police fédérale anti-immigration, qui fait pas mal parler d'elle en ce moment. Selon une enquête récente, sa filiale américaine basée près de Washington a décroché des contrats pour assister l'ICE dans l'identification et la localisation des clandestins via des techniques de skip tracing. En novembre, Capgemini a remporté la plus grande part d'un appel d'offres pouvant atteindre 365 millions de dollars avec des bonus financiers liés au taux de réussite dans la vérification des adresses de migrants. Capgemini gère par ailleurs aussi un standard téléphonique pour victimes de crimes commis par des étrangers. Le groupe affirme ignorer les détails classifiés de ses contrats et s'engage à les examiner. Notons que certains anciens conseillers ministériels comme Thibaut Frossard, ex-conseiller d'Agnès Pannier-Runacher ou David Cavaillolès, ex-conseiller de Frédéric Vidal, ont rejoint Capgemini après leur mission auprès des ministres dans un cadre de reconversion professionnelle. Gageons qu'ils sauront mettre à profit cette reconversion en France dans les années à venir.
De part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là.
C'était en 2017 à Ouagadougou. Emmanuel Macron humiliait la diplomatie française en faisant le clown au Burkina Faso. Entre mépris de son interlocuteur et frottage de nez intempestif, il marquait le début d'un déclin éclair pour Paris sur le continent africain. Niger, Burkina, Mali, la France a été remplacée par la Russie avec le chaos aux portes de ces pays francophones. Mais Emmanuel Macron n'admet pas ses torts et il s'est même justifié 9 ans plus tard sur son discours surréaliste de Ouagadougou.
Alors la clim, c'est n'importe quoi. Bah non, mais ça, c'était vraiment... Ça, c'est un truc qui a été récupéré par certains. Mais c'était vraiment cette relation fraternelle que j'avais avec le président Roch Kaboré. Et c'est vraiment une plaisanterie qu'on a faite ensemble. Demandez-lui si lui, il a été vexé une seule seconde. Pas du tout. C'est-à-dire, on peut pas faire d'humour, on peut pas être franc.
Pas sa faute, et pourtant la commission sénatoriale des affaires étrangères et de la défense, qui rassemble des sénateurs de tous bords politiques, met en exergue une forme d'arrogance et de paternalisme. Emmanuel Macron a fait du Trump avant l'heure et est allé jusqu'à convoquer à demi-mot ses homologues du Sahel, exigeant des résultats de ses partenaires africains comme une enseignante attend des progrès de ses élèves.
Dans les prochains jours et les prochaines semaines de travail sur le Sahel, et puis nous avons acté une clause de rendez-vous. Maintenant, les résultats vont arriver.
Nouveaux éléments accablants pour les propriétaires du Constellation. L'enquête sur l'incendie mortel à Crans-Montana, dans le Valais, en Suisse, a dévoilé de graves négligences de Jacques Moretti, propriétaire du bar. 2 semaines avant le drame, des plaques de mousse se décollaient du plafond et avaient été remplacées à la va-vite. Des échanges par vidéo entre Jacques Moretti et un employé ont été publiés.
Oui, Gaëtan, tu vois si ça tombe, parce que j'ai mis une mousse, mais une mousse que je ne connais pas. Donc dis-moi si c'est bon. Dis-moi si elle tombe ou pas. Si elle tombe, il va falloir le laisser malheureusement.
Un contrôle peu scrupuleux de la part du propriétaire qui peut paraître d'autant plus surprenant que l'établissement avait subi un sinistre 1 an plus tôt. Un départ de feu à cause de bougies étincelantes trop proches du plafond. À croire que le propriétaire craignait peu les contrôles de la part des autorités locales. La mairie de Crans-Montana n'ayant plus effectué de contrôle annuel depuis 2019. La Suède réagit face à la criminalité des plus jeunes. Lundi à Stockholm, le gouvernement a annoncé un projet de loi visant à abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 13 ans. Concrètement, les mineurs pourraient aller en prison à partir de cet âge-là. Depuis plusieurs années, la criminalité augmente en Suède, le pays étant devenu un terrain d'affrontement entre gangs d'Africains, de Turcs et de Syriens, à la faveur de l'enrichissante immigration. L'enjeu est désormais d'éviter que des adolescents soient utilisés comme tueurs à gages dans des gangs. En 2025, les affaires judiciaires impliquaient 88 enfants de moins de 15 ans, dont 25 étaient soupçonnés de meurtre.
Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Choc du Monde. Édouard Chanot reçoit Romain Bessonnet, spécialiste de l'espace post-soviétique, pour évoquer la position russe après les négociations d'Abu Dhabi sur la guerre en Ukraine.
Les Russes demandent un compromis politique aux Ukrainiens sur la base des objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire ce que eux pensent être la mise en sécurité du Donbass, qui pourrait d'ailleurs passer par sa démilitarisation. Les Russes sont tombés d'accord là-dessus avec les Américains. Donc une démilitarisation, mais sous contrôle russe. Donc il y a la question du Donbass, première question. La question de ce que les Russes appellent la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas un danger pour la Russie, notamment en ayant des capacités balistiques à longue portée. La dénazification de l'Ukraine, c'est-à-dire rendre aux Russes le statut qu'ils n'auraient jamais dû perdre de seconde langue nationale et rendre à l'Église orthodoxe ukrainienne ses droits et ses propriétés. Et enfin, la neutralisation de l'Ukraine.
Demain matin, mercredi, dès 7h, vous pouvez découvrir également un nouveau Zoom avec le journaliste économique Pierre Jovanovitch pour évoquer la flambée des prix de l'or et de l'argent et puis l'effondrement des grandes monnaies mondiales.
Si vous vous mettez votre Clio ou votre Citroën en vente sur le Bon Coin, que vous le vendez à 300 personnes différentes alors que vous n'avez qu'une seule voiture, vous aurez beaucoup, beaucoup de problèmes. En revanche, c'est ce qu'ont fait les banques américaines, et la Deutsche Bank notamment, ainsi que la Nomura japonaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un lingot d'argent qu'elles avaient
dans les coffres,
en fait, elles en ont vendu l'équivalent de, selon les derniers calculs, 340. C'est-à-dire qu'ils ont vendu le même lingot 340 fois. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Il y a une histoire récente dans les années 80. Drexel avait fait exactement la même chose. Elle a été fermée d'ailleurs. Et aujourd'hui, les banques sont face à leur... Elles sont prises au piège. Et donc, comme il n'y a plus... vous savez, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande.
C'est autorisé de faire ça ?
À partir du moment où les banques se sont fait voter des lois sur mesure, oui.
Et voilà, c'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.